16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans une édition un peu particulière aujourd'hui d'Historiquement vôtre, puisque nous allons convoquer les esprits. Âme sensible, il est encore temps de zapper sur RTL. Ce qui suit risque fort d'être aussi flippant qu'une séance de spiritisme dans un vieux manoir avec Stéphane Bern qui tente de faire tourner la table en convoquant l'esprit d'un aïeul.
Ouh, où êtes-vous? On vous cherche partout.
Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
N'invitez jamais une soirée comme ça Stéphane, mon cœur n'y résisterait pas, franchement.
Oui, aujourd'hui.
C'est horrible.
Je vous rappelle que c'était pour le besoin d'un précédent...
Ah oui, d'une présente émission, je me doute bien Stéphane.
Oui, oui. Aujourd'hui dans Historiquement Vôtre, on réunit trois férus de spiritisme. L'écrivain Victor Hugo, dont la table ne lui permettait pas simplement de poser son carnet et son stylo, mais bien à parler avec les esprits, et des esprits éclairés de grandes personnalités décédées, vous l'avez compris, mais qui s'invitaient chez lui. Et Camille Flammarion, lui, a éclairé la société de l'époque de son savoir scientifique et de ses découvertes pour le grand public. Il était astronome, et dans le ciel, il ne voyait pas que des étoiles, mais aussi des fantômes. Un homme qui croyait au médium et à l'existence d'un au-delà. Et vous, Mathieu, vous nous parlerez d'un passionné de paranormal, mais un peu plus vivant lui-même.
Oui, plus rock aussi, Stéphane. Jimmy Page, le guitariste de Led Zeppelin. Passionné par le spiritisme et tout ce qui touche à l'occulte, Jimmy affirme avoir croisé la route d'un fantôme. Bon, c'était en 1970 et il tournait pas vraiment à la Salvetta. Mais il y croit dur comme fer, ce n'était ni une hallucination, ni un jeu de lumière. Nous verrons ça.
Et avec nous aujourd'hui pour nous éclairer dans ces ténèbres, un invité tout à fait spécial. Bonjour Philippe Charlier.
Bonjour Stéphane.
Vous publiez l'autopsie des fantômes. Vous êtes le guide idéal pour nous aider à surmonter ces deux heures. Un peu terrifiant. En tout cas, Mathieu est terrifié.
Oui, bah vous aussi Stéphane.
Ah, pas du tout.
J'adore, j'adore les fantômes. Vous aimez les fantômes? Vous aimeriez rencontrer un
fantôme? Mais j'en ai rencontré plein dans ma vie.
Vous en avez... Non mais au sens propre. Est-ce que dans votre
il y a demeure... jardin dîner ou
oui,
l'impression
c'est comme que ça que vous voyez
non fantômes. Non mais on sent des présences, on sent des esprits.
Ah oui.
Oui.
Bah vous livrerez là-dessus Stéphane. Oui. Je pense que ça nous fera des reprises intéressantes dans la presse.
Oui.
Stéphane a rencontré des fantômes.
Oui.
Les fantômes si ça ne suffisait pas, il y a aussi les extraterrestres avec
ils
vous.
Sont là.
Clémentine Portier-Gatenbré aussi ils sont là.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame. Clémentine Portier-Kaltenbach, elle a connu l'intimité des grandes semences. Elle vient nous la raconter dans son
monde-ci. Elle a même été intime avec les extraterrestres.
Mais oui, tout à fait, parce que là, vous me faites rire avec vos fantômes et vos esprits. Tout bien considéré, on en voit beaucoup moins souvent que des extraterrestres, en particulier sur notre territoire, depuis la nuit des temps. Mais à quoi ressemble-t-il? À quoi ressemble leur mode de transport, leur véhicule, leur soucoupe? Et sont-ils hostiles ou sont-ils bienveillants? Eh bien, c'est ce que je vous dirai tout à l'heure.
Tout est 100% vérifié dans l'émission du jour. Attention, c'est scientifique.
Là, vous verrez que c'est dûment estampillé par le GEPAN, qui est l'organisme qui est chargé de recueillir tous les témoignages sur les extraterrestres qui circulent dans notre espace aérien.
Et ils sont nombreux.
Jean-Claude Bourris sort de ce corps. Alors, avec nous, David Castellano.
Excusez-moi, mais j'ai une image tout à coup. Enchaînons rapidement
le
avec David.
Le sens propre, c'est invité.
David Castellano est avec nous chaque jour. L'origine d'une invention, d'un objet du quotidien aujourd'hui.
La cabine téléphonique.
Oui, alors il y en a plus beaucoup.
Ben voilà, qui disparaît, plus, oui. Mais qui n'existait plus, mais qui a existé pendant longtemps. Je pense qu'ici, on l'a tous connu.
Oui,
bien sûr. Et donc voilà, je vous dirai depuis quand.
On n'avait pas assez de pièces, parce que après, il y a eu des cartes. Mais nous, on a connu les pièces.
Ah oui, l'enfer.
Et quand on n'avait pas assez de pièces, ça coupait.
Avec une fente par pièce. À 50 centimes, un franc, 2 francs.
Des extraterrestres, des fentes. Saluons aussi Stéphane, celui qui démontre jour après jour que notre émission sait allier rigueur historique et exigence humoristique.
J'ai la chair de Pouls.
Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, moi j'ai convoqué l'esprit d'Auguste Escoffier pour me transmettre quelques belles recettes et je vous parlerai de la recette et évidemment de l'histoire de la crème brûlée.
La crème brûlée nous met déjà en appétit. Enfin, pour nous remettre de nos émotions et en procurer d'autres plus douloureuses encore à Stéphane Bern, nous jouerons à Bern to be alive. Ce quiz sadique qui chaque jour dévoile un peu plus les limites de la soi-disant érudition encyclopédique de Stéphane. Ça sera vers 5h-10. Philippe Charlier, vous pourrez filer un petit coup de main à Stéphane si ça vous chante, ou à Clémentine, c'est vous qui choisirez le moment venu. Mais tout de suite, partons à la rencontre de notre premier personnage de l'histoire qui était fan de spiritisme. Stéphane Bern nous raconte Victor Hugo.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Nous sommes au mois de septembre 1854 sur l'île de Jersey, au large de la Normandie. Au loin, le vent souffle et de grandes vagues s'écrasent sur les plages de sable désertiques. dans une maison isolée face à la mer, Victor Hugo et un petit groupe de proches sont réunis autour d'une table. Très concentrés, ils attendent qu'un esprit venu de l'au-delà se manifeste. Les secondes passent, lentement. Soudain, ils sentent quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Des bruits, quelques coups. Un étrange dialogue s'engage.
Qui est là ?
La mort.
Pour qui viens-tu ?
Pour la tombe.
Parle.
Les époux charmants, envolés dans le fleuve, pensent à vous. Ils vous aiment, ils vous voient, ils vous attendent et vous gardent votre place dans l'immense baiser. La mort parle là de la fille de Victor Hugo et son mari disparu quelques années plus tôt. La séance est interrompue par une visite impromptue, mais on imagine sans peine le désarroi, sans doute l'effroi du petit groupe, après ce dialogue avec la mort elle-même. Pourtant, Victor Hugo est un habitué de ces pratiques occultes. Depuis son arrivée sur l'île de Jersey, il a pris l'habitude de communiquer avec l'au-delà. Revenons aux origines. Dès son plus jeune âge, Victor Hugo témoigne un grand intérêt pour l'écriture. À 14 ans, il écrit dans son journal « Je veux être Chateaubriand ou rien ». Victor Hugo écrit de la poésie, du théâtre, mais surtout, en 1831, à seulement 30 ans, il publie son premier roman historique, Notre-Dame de Paris, qui fait de lui l'un des auteurs les plus connus en France. Côté cœur, le 12 octobre 1822, Victor Hugo épouse Adèle Fouché, une amie d'enfance. Ils auront en tout 5 enfants, pourtant, on ne peut pas dire que le couple soit heureux en ménage. Victor Hugo entame une relation amoureuse avec Juliette Drouet, une comédienne qui devient sa muse, sa compagne de l'ombre. Pour elle, Victor Hugo compose de poignants poèmes. Il écrit aussi des pièces de théâtre. Cromwell et Hernani font de Victor Hugo l'un des chefs de file du romantisme, un courant artistique qui prône la sensibilité et l'expression des sentiments dans la littérature. En 1841, après s'être présenté plusieurs fois sans succès, Victor Hugo est enfin élu à l'Académie française. Hélas, sa joie est de courte durée. Sa fille adorée, Léopoldine, âgée de 19 ans seulement, meurt noyée avec son époux dans un accident de barque. Victor Hugo est en voyage quand l'accident se produit et il apprend la nouvelle en lisant les journaux. Il ne se remettra jamais de cette terrible perte. Est-ce d'ailleurs pour rétablir un contact avec sa fille disparue trop tôt que Victor Hugo se tourne vers les mystères de l'au-delà? Oui, mais sans doute aussi par ennui. En 1851, le président Louis-Napoléon Bonaparte organise un coup d'État pour devenir l'empereur Napoléon III. Victor Hugo, qui est son plus farouche opposant politique, s'exile avec sa famille. Direction l'île indépendante de Jersey, située entre la France et l'Angleterre. C'est une des îles anglo-normandes. Sur place, il n'y a pas grand-chose pour se divertir, si ce n'est d'étranges histoires de fantômes. On raconte que la maison où Victor Hugo réside est hantée. Sur la plage, les nuits de pleine lune, un décapité errait inlassablement à la recherche du repos éternel. La Dame Blanche, une jeune femme infanticide, apparaîtrait aussi de temps en temps sur les rochers. Il y a là de quoi enflammer l'imagination de l'homme de lettres. Au début de son exil, une amie en visite, la poétesse Delphine de Girardin, lui parle d'une science nouvelle qui ferait parler les morts. Victor Hugo, un peu perplexe mais poussé par sa fille Adèle, accepte de se prêter au jeu. On peut imaginer la scène. Toute la famille, Victor Hugo, sa femme, ses enfants et quelques amis, prennent place autour d'une table ronde sur laquelle est posé un guéridon à trépied. Delphine de Girardin demande à deux participants de mettre leurs mains à plat sur la table. « Posez vos questions. » La table répond en frappant un coup pour oui, deux coups pour non, explique Delphine de Girardin. Rien ne se passe pourtant. Delphine de Girardin persévère. Les esprits ne sont pas des chevaux de fiacre qui attendent patiemment le bourgeois, mais des êtres libres et volontaires qui ne viennent qu'à leur heure, déclare-t-elle. Sous son impulsion, l'Assemblée renouvelle l'expérience les jours suivants. Cette fois, un esprit se manifeste. Il s'agit de Léopoldine, la fille de Victor Hugo, morte noyée 10 ans auparavant. Elle cherche à communiquer avec ses parents. Sous le choc, sa mère reste sans voix, tout le monde pleure. Victor Hugo en est désormais persuadé, les esprits existent. Il écrit « Voilà qui est prodigieux, il n'y a rien à répondre à cela, je me déclare convaincu ». Pendant les 2 années qui suivent, la famille Hugo interroge longuement et presque quotidiennement les morts. Ils invitent des amis ou des connaissances à participer, mais un certain nombre d'eux restent sceptiques. Le 14 septembre 1851, Juliette Drouet, la maîtresse de Victor Hugo, lui écrit ces mots. « Quant à vos diableries, j'y vois pour l'avenir plus d'inconvénients que de plaisirs. Ce passe-temps a quelque chose de dangereux pour la raison, s'il est sérieux, et d'impie, pour peu qu'il s'y mêle la moindre supercherie. » Mais Victor Hugo y croit dur comme fer. Il devient un enragé de ces séances de spiritisme qui lui permettent de parler avec de célèbres visiteurs venus de l'au-delà. Jésus-Christ se manifeste, ah oui. Ainsi que Molière, Dante, Mozart,
bien sûr,
ou encore Machiavel. Le grand dramaturge William Shakespeare dicte à Victor Hugo une pièce directement en français, car je cite « la langue anglaise est inférieure à la langue française ». Le poète André Chénier, vous savez, guillotiné sous la Révolution, revient pour terminer plusieurs œuvres inachevées. Lors de certaines séances, il arrive que le guéridon, guidé par un revenant, dessine. L'un de ses dessins a été conservé et il est particulièrement impressionnant. On y voit une tête de cadavre, aux yeux vides, coiffée d'un chapeau, le sourire grimaçant et surdimensionné. À chaque séance de spiritisme, Victor Hugo consigne ses conversations avec les esprits dans des cahiers. Le résultat est saisissant. Des questions métaphysiques sont soulevées. Un châtiment attend-il les méchants dans l'au-delà ? Les sceptiques ne manqueront pas de soulever que les esprits sont souvent d'accord avec les apprentis médiums. Ils n'ont pas l'air d'apprécier la politique de Napoléon III, l'ennemi juré de Victor Hugo, mais chantent la gloire de ce dernier. Ils lui demandent aussi de reprendre la rédaction de son fameux roman « Les Misérables » ou d'écrire un poème. Ce sera ce que dit la bouche d'ombre. Je vous en lis un vers glaçant. Le spectre m'attendait, l'être sombre et tranquille me prit par les cheveux dans sa main qui grandit. Au cours d'une réunion, Jules Alix, l'un des participants, devient quasiment fou, victime d'une crise de démence. Les séances de spiritisme s'espacent. Sans doute aussi Victor Hugo se lasse-t-il d'explorer le monde de l'au-delà. À son départ de l'île de Jersey en 1855, il ne convoque quasiment plus les esprits chez lui. Victor Hugo revient en France après la chute de Napoléon III, en 1870, il est accueilli triomphalement en héros de la République. Successivement élu à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, il meurt finalement le 22 mai 1885, à l'âge de 83 ans. C'est alors que la passion de Victor Hugo pour l'au-delà refait surface. Dans son testament, l'écrivain lègue le compte-rendu de ses séances de spiritisme à la Bibliothèque nationale de France, afin qu'il soit publié sous le nom de « Livre des tables ». Mais l'exemplaire unique, rédigé à la main par Victor Hugo, disparaît. Depuis, une partie seulement du livre est réapparue et a été publiée. Quant aux pages manquantes, elles ne sont pas prêtes de nous livrer leurs secrets.
Europe 1, historiquement vôtre.
Espy, es-tu là ? Je ne sais pas, mais Philippe Charrier, lui en tout cas, est là pour continuer à parler de Victor Hugo, l'homme qui convoquait les esprits. Nous avons donc convoqué l'homme qui lui aussi fait parler les morts à sa manière, le médecin légiste et anthropologue Philippe Charrier.
Oui, Philippe Charrier, bonjour. Vous publiez Autopsie des fantômes, une histoire du surnaturel aux éditions Talendier. Lorsqu'on évoque Victor Hugo, on a plutôt l'image d'un écrivain ancré dans le sol, de l'écrivain engagé, l'auteur des Misérables, des Châtiments. Ce côté hors sol, on peut le déceler à travers son œuvre ou il n'apparaît que dans ce fameux livre des tables, selon vous ?
Il apparaît surtout dans ce livre des tables, dans quelques poésies, notamment la bouche d'ombre que vous avez citée tout à l'heure, avec des vers particulièrement inspirés, glaçants et qui, moi, me font froid dans le dos. Il est resté extrêmement raisonnable, très engagé politiquement, très romantique en effet, mais ce côté sombre, ce côté glauque et ce côté tourné vers l'au-delà, c'est vraiment dans le livre des tables qu'il apparaît. Et ça se lit presque comme un roman. Jour après jour, cette interrogation des morts, cette façon de convoquer des personnages célèbres et de les faire parler à la façon de Victor Hugo. Quand Mahomet, par exemple, ou d'autres parlent, Laurent de Médicis, par exemple, il s'exprime exactement comme si c'était Victor Hugo lui-même qui parlait.
Mais selon vous, Philippe, le spiritisme de Victor Hugo, ici, a donné par ennui, ou à l'origine, c'était aussi pour communiquer avec sa fille morte, Léopoldine, n'est-ce pas ?
Alors, je pense les deux. D'abord, Jersey est un endroit où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'activités, mis à part quelques pubs, mis à part les promenades sur la grève, quelques personnes de passage quand même, qui étaient en route ou en chemin vers l'Angleterre ou qui voyageaient. C'est quand même un endroit où, pardon, peut-être trivial, mais où on s'emmerdait sec quand même. Donc, c'était un moyen de tromper son ennemi, on va dire. L'autre chose aussi, c'est que... par l'intermédiaire de cette poétesse, Delphine, eh bien, il va faire la découverte de cette technique, si on peut dire, de mise en contact avec les morts, l'au-delà. Et là, évidemment, il ne va penser qu'à une seule personne, Léopoldine, bien entendu, son mari, pas trop, mais surtout Léopoldine, et il va essayer d'entrer en contact avec elle. À mon avis, c'est vraiment une conjonction entre les deux, l'ennui et l'occasion, si on peut dire.
Il n'a jamais renié ce spiritisme quand il revient, son retour triomphal en France. Il pourrait se dire, attends, j'ai un peu déconné quand même à Jersey avec ces histoires de spiritisme, de fantômes. Non, il l'assume jusqu'au bout.
Non, il ne va pas le renier, en effet. Il va marquer une distanciation. Je pense qu'au bout de 2 ans quasiment d'exercice, en voyant quelques effets secondaires, avec la folie qui saisit un des participants, il finit vraiment par en faire le tour et par s'ennuyer à nouveau. Je pense que Victor Hugo, il fallait vraiment qu'il soit sans arrêt dans l'action en permanence. Et au bout de 2 ans, il avait fait le tour et c'était plié. Donc non, il ne renie pas. Pour lui, c'est une réalité, mais il est déçu de ne pas pouvoir aller au-delà. En 2 ans, il a fait le tour.
Alors, la variété des personnages que Victor Hugo convoque dans ses séances de spiritisme peut sembler étonnante. Stéphane les a évoqués. Vous en dressez la liste dans votre livre « Autopsie des fantômes ». Shakespeare, Jésus-Christ, Hannibal, Mahomet, Dante, Luther, Raphaël, Molière, Mozart, Machiavel, Rousseau, Sappho, Eschyle, Aristophane, le masque de fer. Il sait qui est le masque de fer, peut-être, alors lui, il pourra nous le dire. Et même des animaux comme le lion d'Androclès ou l'ânesse de Balaam. Est-ce qu'il y a une cohérence dans tout ça? Il y a à la fois des dieux et ces démons aussi à Hugo.
Oui, c'est un peu ça. Alors, ce ne sont quand même en grande majorité que des personnages célèbres, parce qu'il faut... Il faut se mettre à la hauteur quand même de Victor Hugo. Pour parler à Victor Hugo, on ne peut pas être n'importe qui. Et puis, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'écrivains, de poètes, de... Voilà, de...
Oui, il n'y avait pas la boulangère de Jersey. Hein.
Non, non, étonnamment, étonnamment. Non, ça recrute large sur des périodes qui sont assez grandes. Certains sont critiques vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de Victor Hugo, même lui disant, tu as abandonné ton travail, remets-toi à l'écriture de tes poésies, etc.
Mais comment il communique exactement? Parce qu'à un moment, il y a eu... cette petite scénette qu'on a jouée avec beaucoup de talent, d'ailleurs, je me demande ce que...
Vous n'avez jamais fait de séance de spiritisme.
Non, mais c'est les mains... coups uniquement. Mais parce que tout à l'heure, on a dit des phrases. Il y a une voix, on a entendu une voix.
En vous fait, avez fait, c'est parce que la mort. Chaque coup correspond à une lettre.
Ah, d'accord.
Et donc en fait, vous écrivez des mots. Donc,
Sauf que là, c'était encore plus archaïque. Ah. C'était vraiment... Il présentait, en fait, le verre ou le guéridon. C'était surtout un guéridon devant une sorte de grand alphabet qui était tracé. Et à chaque fois, c'était un coup pour oui, deux coups pour non. Et ou pas de coups. La technique changeait parfois au fur et à mesure des séances ou d'un jour à l'autre. Donc, il fallait faire à chaque fois tout l'alphabet.
Ah oui, non, mais ça durait des heures.
Des nuits,
pour avoir un mot, ça dure des heures.
Alors imaginez, pour avoir une poésie.
Non,
ça durait vraiment pendant toute la nuit, c'était épuisant. Certains s'endormaient. Enfin, on voit dans les comptes rendus de séances, dans le livre, qu'il y en a qui quittent les séances parce qu'ils sont... Ils tombent, ils s'endorment sur la table, littéralement.
J'ai vu aussi que les enfants étaient conviés.
Oui, c'est ça, ils faisaient ça en famille.
Oui, c'est pas choquant du tout. On est vraiment dans un cadre qui est un cadre bourgeois, si on peut dire, où les enfants participent. Alors, c'est pas les petits-enfants, ils n'ont pas 2-3 ans, mais des grands-enfants participent, quasiment toutes les générations. Mais à l'époque, vous savez, on emmenait les enfants à la morgue aussi, les enfants assistaient aux funérailles, à cercueil ouvert, etc. Donc, les enfants participaient, il n'y avait aucun tabou, si on peut dire, social.
Oui, il n'y a pas de tabou entre la vie, la mort, il y a une sorte de communication...
De circulation permanente entre l'un et l'autre, où la frontière est extrêmement ténue, tout à fait.
Est-ce que ces séances de spiritisme, elles ont été finalement un moteur pour sa créativité à Victor Hugo?
Je pense que oui. Alors, il était déjà passionnément créatif, mais par l'intermédiaire de certains poètes, de certains dramaturges, de certains auteurs plus ou moins prolifiques, eh bien, il a lui-même été inspiré par cela. Quand il finit, par exemple, des poésies de Dante, évidemment pas en italien, mais en français à nouveau, quand il finit des vers de Shakespeare, c'est toujours du Victor Hugo. De toute façon, stylistiquement, c'est du Victor Hugo. Mais je pense que oui, ça l'a dopé un tout petit peu. Il s'est dit, tiens, ces auteurs-là vont me nourrir par la même occasion. Et en fait, il s'auto-nourrissait par intermédiaire. Donc, il en sort grandi sur le plan stylistique. Je pense que les spécialistes de Victor Hugo diront que ce ne sont pas les meilleurs vers de Victor Hugo. Mais moi, il y en a certains que je trouve particulièrement attirants. Parce qu'il les tire vraiment, ils sont viscéraux presque, ces vers. Ils sont viscéraux.
Mais vous affirmez qu'il y a une progression dramatique dans ces séances et que l'acmé, c'est lorsque la mort pointe son nez. Alors, racontez-nous ce moment.
Sans nous faire trop peur. Non, ça devrait aller normalement. Au fur et à mesure des séances, on voit que des personnages de plus en plus dramatiques, de plus en plus sombres surviennent. Et puis un soir, quelqu'un se présente qui ne dit pas son nom tout de suite. L'esprit ne dit pas son nom. Et la première chose que demandent les gens, c'est « Qui es-tu ? D'où viens-tu ? À quelle période te réfères-tu ? » etc. Et à un certain moment, cette personne dit « Je suis la mort ». Enfin, quand j'ai lu ce passage-là et que la mort se présente directement, c'est pire qu'un mort, c'est le concept, c'est la mort, la grande faucheuse. Et il n'y croit tellement pas qu'il lui redemande « Es-tu vraiment ça ?» Et « Oui, oui, je suis la mort ». Et donc, ils vont la faire parler sur ce qu'elle vient faire, qui elle est, ce qui l'habite, quels sont ses critères de choix, etc. Et puis malheureusement, oui, il y a une interruption. Mais la mort reviendra ensuite, au moins 4 ou 5 fois. La mort revient. Enfin, c'est quand même incroyable de dire cette phrase-là. La mort revient plusieurs fois de suite. Et puis, peut-être que la mort se lasse elle aussi. Ou alors Victor Hugo, par l'intermédiaire de la mort, en a marre d'interroger sa propre mort et surtout la mort des êtres qui lui sont chers. C'est vraiment... Enfin, il faut le voir. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, c'est pas tant le problème. Qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, c'est pas tant le problème non plus. Ce qu'il faut voir avec ces séances de spiritisme à Jersey, avec Victor Hugo, c'est la façon avec laquelle chacun des membres s'interroge soi-même par l'intermédiaire de cette métaphore que sont les esprits de personnages célèbres. Et c'est ça, c'est vraiment une introspection. Certains y verront même une psychanalyse déguisée.
Oui, c'est un peu ça, parce que ça a aidé, par exemple, Victor Hugo à supporter l'exil et à se poser des questions sur sa place, sa position. Puis ensuite, ça l'a peut-être incité à s'engager en politique quand il est revenu d'exil.
Peut-être que ça lui a fait sortir de lui-même son engagement politique, surtout quand des personnes qui ne sont pas mortes, comme Napoléon III, apparaissent.
Ah, il a parlé avec Napoléon III ?
Il a parlé avec Napoléon III via la table tournante, ou la table parlante, ce que j'appelle la table bavarde, eh bien, il va interroger Napoléon III. Et quand on dit, mais Napoléon III n'est pas mort, non, il est en train de dormir, il rêve, et c'est son esprit voyageur qui parle à travers la table. Évidemment, Napoléon III, c'est amusant dans le livre des tables, s'excuse presque auprès de Victor Hugo, lui dit, non mais, tu as peut-être raison, je suis peut-être allé un peu loin, etc. Enfin, c'est amusant, c'est amende honorable.
À ce point de l'émission, il y a peut-être des gens qui se disent « Non mais il avait fumé la moquette, Victor Hugo. » Peut-être qu'au fond, c'est une autosuggestion ou peut-être même peut-être qu'il se mettait en scène en se disant bah, « Comme ça, tout le monde va dire du bien de moi, de Mahomet jusqu'à Napoléon III. »
Mise en scène, je ne pense pas, parce qu'il n'y avait aucun autre spectateur à Jersey que les quelques rares voyageurs et surtout ce cercle familial. Et je ne pense pas qu'il ait investi pour l'avenir. Je ne pense pas qu'il ait fait tourner les tables pendant 2 ans à Jersey quasiment, en se disant dans 10 ans ou 15 ans ou 30 ans, ça va me servir. Honnêtement, je ne crois pas. En revanche, qu'il s'en soit servi pour sa propre introspection, pour dépasser certaines choses et pour faire sortir des idées de sa tête, y compris des prises de position et des décisions politiques ou sociales, là oui, certainement.
Pardonnez-moi d'être terre à terre, mais si on imagine que, comment dirais-je, que c'était une fiction, il y a quelqu'un dans ce cercle rapproché qui donnait des coups, qui transmettait des messages particuliers. C'est probablement pas Victor Hugo lui-même, je ne sais pas, peut-être Victor Hugo lui-même, à ce moment-là, c'est une autopsychanalyse, mais est-ce que quelqu'un d'autre, autour de cette table, il n'y a jamais eu d'enquête là-dessus pour savoir qui aurait pu donner des coups et transmettre des messages
On est dans un cercle restreint, on ne sait pas exactement, on n'a pas le détail exact de chacune des séances.
Qui était présent
Normalement, vous mettez les mains sur la table.
Stéphane, il y a plein de techniques, il y a des magiciens qui font des trucs incroyables, on imagine qu'il y a des techniques probablement pour faire entendre des coups, non? Je parle à 2 convaincus du spiritisme, là. Là, vous y croyez tous les 2. Philippe Charlier, Stéphane, pour vous, les esprits ont communiqué.
Je n'ai jamais fait de séance.
Moi, je n'ai jamais fait de séance non plus, mais je crois vraiment à la bonne foi de tous les participants de ces séances de Jersey. Il y a une sorte de, pardon pour le terme que je vais utiliser, qui est tout sauf péjoratif, mais c'est le terme utilisé en science et en médecine, une sorte de phénomène d'hystérie collective. Alors, hystérie, ça c'est très sexé et je déteste ce mot-là. Collectif, on est quand même sur un cercle restreint de 5, 6, 7 personnes maximum. Mais c'est quand même cette idée-là que tout le monde finit par y croire parce qu'il croit que son voisin y croit et à la fin, tout le monde finit par y croire. Je pense qu'il faut garder leur bonne foi.
Rendez-vous à la maison samedi soir. Ça m'a donné envie d'essayer.
Bien, guéridon.
J'ai tout ce qu'il faut.
Très bien.
Ici, Europe 1. 16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires avec bon esprit, parfois mauvais esprit. C'est Clémentine Portier-Kaldenbach. Et puis, bon, Philippe Charlier qui nous accompagne cet après-midi. Vous connaissez bien Clémentine Portier-Kaldenbach et réciproquement. Aujourd'hui, Clémentine, on se tourne vers le ciel, non pas pour convoquer des esprits, mais parce que vous avez rencontré des extraterrestres.
Oui, voyez-vous, parce que c'est vrai qu'avec Philippe, on a quelques souvenirs plutôt six pieds sous terre, mais là, on va pour l'occasion s'élever avec les fantômes. Mais c'est vrai que les extraterrestres, on en voit beaucoup sur notre sol depuis fort longtemps. Pas que, d'ailleurs, parce que déjà, dans l'Antiquité, Pline l'Ancien, Sénèque, Tite-Live savent que les soucoupes volantes existent et parlent pour les désigner de Clypei ardentes, ce qui signifie bouclier de feu. Donc, les extraterrestres fréquentent notre espace aérien depuis la nuit des temps. Et comme tout le monde, ils ont quand même une préférence pour la France, naturellement. Hein, bien sûr, on est quand même le pays. Mais oui, on est le pays le plus visité au monde. Alors, est-ce qu'ils sont hostiles ou amicaux, ces extraterrestres? C'est ça la question que je me suis posée. Et on est en droit de se le demander, parce que depuis les années 1830, époque à laquelle on a représenté pour la première fois un alien, il s'agissait d'ailleurs en l'occurrence d'un homme chauve-souris venu de la Lune. Eh bien, de nombreux témoignages portant sur les extraterrestres en transit sur notre territoire attestent de leur part d'un comportement méfiant, pour ne pas dire hostile. Ils sont finalement peu désireux de nouer le dialogue avec les autochtones, à l'instar d'ailleurs des touristes du monde entier, hein, qui aiment bien la France et aiment beaucoup moins les Français, généralement. Donc, pour les extraterrestres, c'est à peu près pareil. Alors, pour les statistiques sur le tourisme en France, on est très au point, on a les statistiques du ministère du Tourisme, 89,4 millions de visiteurs en 2018. Mais pour savoir quelle est la proportion de solariens, mercuriens, séléniens et autres martiens dans le tourisme hexagonal, alors là, il faut se tourner vers le GEPAN. Le GEPAN, créé en 1977, c'est le groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Et puis on peut aussi demander au CNES, hein, le Centre National d'Études Spatiales. Et avec ces organismes, messieurs, sachez, cocorico, que la France a été le premier pays au monde à publier en ligne, en toute transparence, toutes ces archives officielles sur les ovnis en circulation dans notre espace aérien. Elles contiennent les quelques 8000 témoignages représentant près de 3000 cas d'observation analysés en 40 ans, dont 4% restent inexpliqués, ce qui est énorme. Alors avec vos esprits et vos fantômes, vous pouvez aller vous aligner. Entre 50 et 100 cas sont signalés chaque année. Alors là, quand même, autant dire que même si les martiens pratiquent le covoiturage, enfin je devrais dire plutôt d'ailleurs le co-soucoupage, eh bien le tourisme terrien semble encore réservé chez eux à quelques happy few. Alors les soucoupes, justement, hein, elles restent le moyen de transport naturellement le plus souvent utilisé par nos visiteurs de l'espace, en forme de cigare ou de toupie d'enfant, agrémentée ou non de pieds ou de tentacules, pourvues ou non de hublots, de projecteurs, de faisceaux bleus lumineux et de feux arrière rouges clignotants. Elle se décline dans une gamme de couleurs plus riche que nos voitures. Puisqu'à côté des soucoupes vertes, bleues, pétrole, rouge, jaune, orangé, ont été signalées chez nous des soucoupes gris fluorescent. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, ça doit être pas mal.
Mais ils font ça chez Audi aussi. Hein.
Ah bah oui, oui peut-être. Oui,
hein,
gris fluorescent. Alors, à noter quand même que question développement durable, les extraterrestres ont un temps d'avance sur nous. Hein, puisque leurs vaisseaux spatiaux se déplacent à une vitesse supersonique, comme dans les 2000...
Ils ne font pas de bruit.
Exactement, sans bruit, 2500 km/h, ni fumée, ni traîner et ne laisse aucune trace de radiation. Enfin, quel est l'aspect physique de nos visiteurs? Alors, dans les ouvrages de science-fiction, sont souvent des petits hommes verts macrocéphales. Hein, vous savez tout ça, Philippe, macrocéphale, pour vous les deux autres, Coco, là, grosse tête égale gros cerveau. Hein. Ils sont forcément bien plus malins que nous, puisqu'eux, ils arrivent à venir visiter notre territoire, alors que nous, on n'est pas fichus.
Ah bah si on d'aller... Est,
bon,
okay,
on est sur Mars. Bon, bah d'accord, on envoie un robot sur Mars, mais on n'en est pas allé visiter. Nous, on n'a jamais fait que visiter la Lune jusqu'à présent. C'est quand même pas brillant. Alors, chose extrêmement troublante, les témoignages de ceux qui les ont croisés corroborent d'assez près les modèles d'aliens produits par les séries télé. De forme humanoïde, ils ont la taille d'un enfant. Ils sont verts, noirs ou gris et ils fuient le contact. Ceux qui les ont vus auraient-ils un peu trop regardé Star Trek et Cosmos 99 Alors, ces deux enfants qui gardaient des vaches dans le Cantal en 1967, ont-ils vraiment aperçu quatre petits êtres noirs d'environ 1m20, à proximité d'une sphère posée sur l'herbe, s'agiter et s'élever dans les airs pour rentrer dans la sphère par le haut et la tête la première? Maurice Mas, agriculteur de Valensole dans les Alpes de Haute-Provence, a-t-il vu dans son champ un engin en forme de poire posé sur six pattes, piloté par deux bonhommes, hauts comme des gamins de 7 ans avec des têtes de courge, à Chaveuil? Un être revêtu de la tête aux pieds d'un scaphandre transparent est-il venu par deux fois dans le village en 54 et en 78 en s'approchant d'un témoin en sautillant? Vrai ou faux, comme on a coutume de dire au GEPAN, une absence de preuve ne peut être une preuve d'absence. Que ces incertitudes ne nous empêchent pas de préparer la rencontre du troisième type dans la grande tradition de la diplomatie française. Pour nouer d'harmonieuses relations avec les Martiens, procurons-nous dès à présent des Indes à la planète Mars, ouvrage de Théodore Flournoy publié en 1900. Flournoy y mentionne Hélène Smith, médium qui ayant voyagé sur Mars par télépathie, à de nombreuses reprises, en maîtrisait parfaitement la langue dont elle nous a transmis le béaba, je vous en avais déjà parlé, messieurs. Alors, soyez prêts, le jour où vous voyez un martien mécontent de son séjour chez nous, embarqué dans sa soucoupe, lancez-lui un très cordial « Kevi Berimi Remlid », ce qui signifie, en martien, « Dis, quand reviendras-tu ? »
Oh, c'est beau. Clémentine.
C'est très beau, Clémentine.
J'avais une question. À un moment, vous dites qu'il y a 4% de ces observations de présence qui ne sont pas résolues.
Ben oui.
Ça veut dire que 96% sont résolues.
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ça peut être une météorite. Ça peut être
un satellite, la station spatiale internationale.
Bien sûr. La plupart du temps, c'est expliqué. Ça peut être un phénomène météorologique. Enfin, ne me lancez pas là-dessus. Ça, je n'y connais rien pour le coup. Moi, je me suis intéressé simplement au caractère un peu affectif et personnel de ces visites extraterrestres.
Vous les attendez donc.
Elle les attend pied ferme.
Elle a préparé la soupe aux choux. Merci beaucoup, Clémentine.
Merci, Clémentine. Mais vous savez, si je vous dis moi, ça vous dit quelque chose? Parce que dans l'actualité assez récente, il y a quand même cet élément intéressant sur la vie extraterrestre. Il y a quand même un chercheur d'Harvard qui nous dit que l'astéroïde Oumuamua, qui était cylindrique et un peu de forme bizarre, était un vaisseau spatial. Il y a quand même des gens qui sont un peu pointus qui croient vraiment
à ça.
Donc, visiblement, vous croyez au spiritisme, mais moins aux extraterrestres. Moi, je serais plutôt l'inverse. On reste tous ensemble. Réunis, puisque Philippe Charlie, vous allez assister à un moment épique de cette émission, le quiz qui oppose Stéphane Bern à Clémentine Portier-Kaltenbach. Quiz éminemment historique. Vous allez voir un quiz mortel, évidemment.
Oui, mais vous voyez, par exemple, quand je donne une mauvaise réponse, c'est pas moi, en fait, qui parle.
Ce sont les esprits
qui...
de Napoléon à travers vous, bien sûr.
Ah, ouais. Et
évidemment, c'est une bonne justification. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
C'est aujourd'hui la 128e fois que Stéphane Bern va défier Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'épreuve du quiz mano à mano légendaire que Stéphane Lucide définit ainsi.
C'est le match nul dans la nullité.
Un match nul dans la nullité, voilà qui est bien résumé. Quiz spécial frisson aujourd'hui évidemment, pour lequel Philippe Charlier, vous pouvez aider l'un ou l'autre des participants, peut-être le plus mauvais. Vous devriez rapidement voir de qui il s'agit. Jouons à Bern to be alive. Stéphane, la première question est pour vous. La nécromancie, c'est la communication entre les vivants et les morts par le biais de la divination. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'Albert Einstein avait participé à un projet pour construire une machine pouvant le faire. Projet abandonné, mais projet tout de même. Vrai ou faux ? Albert Einstein aurait participé à un projet de machine nécromancienne.
Ouh là là, faut se méfier là, Stéphane, parce que sur les projets bidons qui ont existé sur le papier et n'ont jamais vu le jour, on s'est plusieurs fois fait avoir. Hein.
Ouais. Non, écoutez, attendez, je me rentre en communication avec Albert Einstein.
S'il vous plaît, oui. Demandez Albert Einstein.
Philippe, on a eu droit un jour ici au pigeon qui devait piloter des missiles. Hein, donc, c'était vrai.
La réponse était vraie.
Et au premier fax en 1842.
Que vous dit Einstein, Stéphane?
Non, le projet n'est pas de lui.
Le projet n'est pas d'Einstein.
Vous avez gagné.
Le projet n'est pas de lui. Vous étiez bien en communication. Il va bien, Einstein?
Non, bah,
c'était bien
forme.
Lui, en pleine forme. Hein.
C'était Edison.
Bonne réponse de Philippe Charrier, qui marque 2 points et qui rentre dans le quiz pour participer. Bravo, Thomas Edison. Effectivement, il a inventé le nécrophone, un projet d'appareil pour enregistrer la voix et les sons des morts. Entre lui et son assistant, un pacte avait été pris. Le premier qui meurt envoie un message à l'autre. C'est l'assistant qui est mort en premier, mais Edison n'a pas eu de nouvelles. Ça n'a pas fonctionné. C'est marrant, cet Edison. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Akabei Mashibuse, Otoboke et Kimagure sont évidemment les 4 fantômes appartenant au folklore japonais de l'ère Meiji de la fin du 19e. Selon les croyances de l'époque, c'était des esprits masculins, mais qui se transformaient en femmes. Dès lors, ils profitaient de leurs ébats sexuels pour vider de leur sang, et pas que de leur sang, leurs victimes. Vrai ou faux ?
Alors, dans la mesure où nous avons déjà eu droit aux samouraïs, dont le rite d'entrée dans la grande confrérie passait par des ébats sexuels avec des femmes, et nous avons eu aussi les mangas qui se servent de leurs testicules comme parachute,
oui,
et
beau,
toutes
ça.
Sortes de choses aussi.
Oui. Vous êtes au cœur de l'histoire, Philippe.
Mais dans quelle émission je suis tombé ?
Au cœur de l'histoire.
Je pense que oui. Oui. Certainement.
Certainement.
Bien sûr. Puis de toute façon, passer d'un sexe à l'autre, c'est d'une simplicité biblique. Ouais. Ça existe depuis aussi longtemps que les extraterrestres. Je dis oui.
Vous n'êtes donc pas historienne pour rien.
Vous avez
perdu. Mais non, ce sont les noms des quatre fantômes dans le jeu vidéo Pac-Man qui tentent de vous attraper. C'était un piège. Aïe, 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 les historiens, quand même, c'est plus que c'était. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Halloween est une fête païenne originaire des îles anglo-celtes. Son nom vient de la salutation de la divinité Maxwina, gardienne des temples de la mort. On disait Hellowina, ça a donné Halloween. Halloween, vrai ou
non,
faux ?
Non, je crois pas. Non.
Vous ne réfléchissez même
non,
plus.
Non, mais non.
Et qui parle à travers vous, Stéphane ?
Demandez à Philippe, Stéphane.
Je crois pas.
Je dirais bien un gros nom.
Gros nom. Ah oui, voilà. Ah, c'est oui, faux. Oui, et oui. Vous connaissez la vraie réponse ? Oui.
Absolument pas, mais j'ai hâte de la découvrir.
Vous avez...
Banco, Stéphane. Ouais. Effectivement, c'était faux. Vous avez bien joué. Moi, j'aurais dit oui. Vraiment, j'ai aucune culture. Halloween est la contraction de All Hallows Eve, qui signifie veille de tous les saints en anglais.
Alors, ça, vous oui, c'est pas exactement. Pas moi, j'ai droit pareil. À Pac-Man pendant ce temps-là.
Oui, vous n'auriez pas trouvé.
C'est pas non plus une tare de répondre à des questions difficiles.
Oui, mais je sais que vous, ça vous dérange pas de répondre à côté de la plaque. Moi, ça me blesse quand même.
Ah oui, à vous, à chaque fois, elle le vit très mal.
Vous mettez toute votre âme
oui,
dans
Elle sort plus vite du studio quand elle a perdu. Elle sort un peu boudeuse, comme ça, bien rapidement. Toc, 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 toc. Et elle claque un peu la porte, j'ai noté. Question numéro 4, Clémentine, elle est pour vous, attention. Évoquons les disparus, ceux qui ont péri. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les 7 astronautes qui ont perdu la vie en 86 lors du dramatique accident de Challenger ne sont pas morts durant l'explosion. Vrai ou faux ?
Ce qui signifierait qu'ils seraient morts avant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une explosion du combustible, non ? Est-ce qu'ils auraient été, ils seraient morts asphyxiés ou ils ne sont pas morts au moment de l'explosion ?
C'est la question que je vous pose. On se souvient de
oui,
cette
oui,
explosion
sûr,
dans le ciel.
Qu'est-ce qui serait passé ? Et ça semble avoir pris une fraction
mais je ne
de
pas
seconde.
Jusqu'à là, je ne vous demande pas ce qui s'est passé. Je vous demande si c'est non, vrai ou faux. Ils ne sont pas morts durant l'explosion. C'est la question que je vous pose.
Ils étaient donc déjà morts avant ? Ça dépend, oui.
Vous formulez les choses comme vous voulez.
Mon Philippe, help. Est-ce que...
Ils peuvent très bien être morts d'asphyxie ou d'une dépressurisation ou autre chose avant. Donc, oui,
sinon,
oui,
la question en plus n'aurait guère de sens.
Totalement possible.
Donc je pense que oui, ils sont morts d'autre chose, probablement quelques secondes ou minutes avant l'explosion.
Sinon, la question n'aurait pas de sens. C'est finement raisonné.
Vous avez...
C'est gagné. L'heure exacte de la mort des astronautes de la navette Challenger n'a jamais pu être clairement établie. La preuve que l'explosion n'a pas été fatale, c'est que les dispositifs fournissant l'oxygène ont été déclenchés par eux depuis la navette après l'explosion. Donc ce n'est pas avant qu'ils sont morts, mais après. Ce qui est assez fascinant, la navette a chuté pendant 2 minutes et 45 secondes. Elle a percuté l'eau à 334 km/h, ce qui n'est jamais très bon.
Bah, j'ai gagné le quiz, n'en savais pas besoin.
Je suis désolé de vous annoncer, chère Clémentine, que vous avez perdu. En revanche, Philippe, lui, a marqué des points tout à l'heure.
Ce qui fait voilà, il y a quand même la dernière question, je vais assister
qui aboutit
au
à la question 5. C'est une question, effectivement, c'est le choc des titans et c'est une question de rapidité. Mais attention, il faut néanmoins attendre que je vous ai exposé les 3 propositions pour répondre. Et vous me dites ensuite la 1, la 2 ou la 3. L'imagination des hommes ne connaît aucune limite. Quand il s'agit de tuer ses semblables, l'humanité a fait preuve d'une extrême créativité. Quel projet a réellement été envisagé pour euthanasier des humains de façon originale ? 3 propositions. 1. Des montagnes russes particulièrement extrêmes. 2. Un bathyscaphe qui, à une certaine profondeur, fait exploser d'un coup sec toutes les personnes qui s'y trouvent. Ou 3. Une machine à endormir avec des pensées qu'on a choisies pour une fin de rêve.
2.
Moi, je dirais bien la 1.
Vous avez...
Le regard de Stéphane est désespéré. Oui, c'est une victoire de notre invité Philippe Charlier. La montagne russe, baptisée Euthanasia Coaster. Il a été conçu et maquetté en 2010 par un artiste et designer lituanien, créé, je cite, pour prendre la vie humaine dans l'euphorie. Deux possibilités d'utilisation pour euthanasier, mais aussi pour appliquer la peine de mort. On meurt d'hypoxie cérébrale, insuffisance d'oxygène dans le cerveau, c'est ça ?
C'est ça.
Une chute sur plus de 500 mètres à 360 km/h, suivie de tonneaux pendant 60 secondes à 10G. Ah oui, normalement c'est le voile gris, puis le voile noir, puis la syncope.
Mais c'est débile. Alors,
bon, voilà. Mais surtout, personne n'a envie de monter dedans si on sait comment ça passe.
Ah ben non, mais ça serait une pour la peine capitale. Ça serait une manière de mourir.
Mais pourquoi voudriez-vous que l'on appliquât la peine capitale de façon euphorisante ?
Surtout
qu'est-ce
chez nous,
que c'est que ce... Mais alors, où avez-vous trouvé
c'est,
ça
c'est une démarche artistique.
C'est une démarche artistique en Lituanie. Il y a beaucoup d'éléments quand même dans cette invention. En Lituanie, artistique, bon, tout est possible. Victoire de notre invité Philippe Charlier. C'est magnifique. Bon, même pas, c'était pas très fort, mais c'est rassurant.
C'est rassurant.
Effectivement,
c'est rassurant. Sinon, on ne l'aurait pas invité.
Évidemment. Si moins compétent que vous, ça n'aurait pas de sens.
C'est vrai.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, mais parfois en vous faisant flipper.
Oui, grâce à des musiques angoissantes dénichées sur YouTube en tapant « musique film d'horreur libre de droit », mais surtout grâce à notre thème du jour, « Esprit, es-tu là ?» Et notre invité spécial, lui, est là, Philippe Charlier, qui publie « L'autopsie des fantômes ». Rien qu'en découvrant le titre, Stéphane a frissonné.
Mais j'ai peur maintenant.
Rassurez-vous, Stéphane, je suis là pour vous tenir la main. Et Philippe Charlier est là aussi. Alors, Philippe, on a passé déjà une petite heure ensemble. Vous avez l'air d'y croire. Vous avez l'air de croire aux esprits, comme Stéphane.
Non, je ne crois pas particulièrement aux esprits, mais je crois qu'il y en a qui y croient.
Et ça me fascine.
Et ça m'intéresse beaucoup. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire l'anthropologie de la communauté spirit et de me poser la question de pourquoi les fantômes existent, ou du moins, pourquoi est-ce que les gens croient que les fantômes existent ? À qui profitent les fantômes ? C'est ma question principale.
Et ils profitent à qui ?
Oh, j'adore le regard.
Parce que lui, il est vexé parce qu'il y croit vraiment. Alors, il veut savoir qu'est-ce que c'est que cette arnaque.
C'est surtout à la fin du 18e, au début du 19e siècle, quand la science occupe complètement ou commence à occuper tous les champs disciplinaires. La science est partout. La science commence à tout expliquer. Et certains se réfugient dans les fantômes en disant non, attendez, la science ne peut pas s'occuper de la mort. La science ne peut pas s'occuper de l'au-delà. Laissez-nous au moins cette part de rêve et de mysticisme. Sauf qu'à un certain moment, et notamment avec Camille Flammarion, eh bien, la science va déborder également sur le domaine du spiritisme.
Bien justement, après Victor Hugo, fasciné par l'au-delà, je vais vous parler dans un instant d'un astronome lui aussi persuadé de l'existence des esprits, c'était Camille Flammarion. Quant à vous Mathieu, vous parlerez d'un rocker qui était fan du spiritisme.
Oui, Jimmy Page, le célèbre guitariste de Led Zeppelin, croit aux fantômes. La raison est simple, un jour dans un vieux manoir où il enregistrait un album, il en a croisé un. Et c'était pas Robert Plant qui s'était mis un drap blanc pour déconner parce qu'ils étaient tous bourrés, non Stéphane, c'était un vrai fantôme, vous allez voir ça.
Mais regardez.
Ah, je regarde.
Eux aussi sont bien réels, Mathieu. Quoique, on n'est plus vraiment sûr de rien maintenant.
C'est vrai, là, je doute de tout, là.
David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'un objet qui nous permettrait de communiquer avec les vivants, mais un objet qui est mort maintenant.
C'est vrai, en plus, tous les thèmes de l'émission sont dedans, un peu dans le désordre, mais ouais, c'est tout à fait ça, c'est les cabines téléphoniques.
Il n'y en a plus aucune. C'est un petit secret que vous nous réservez.
Certaines ont été transformées en librairies pour mise à disposition des livres du village.
C'est très poétique. La crème brûlée aussi, c'est très poétique et c'est surtout très bon. Olivier Poul, chaque jour, l'histoire d'une recette.
Oui, elle n'a aucun rapport avec les morts, l'au-delà.
Vous n'êtes pas fatigué aujourd'hui.
Une bonne crème brûlée, ça vous remet de vos émotions après avoir discuté avec des revenants.
Et le mot de la fin, bien sûr, reviendra à Stéphane Bern. Aujourd'hui, Stéphane, vous nous disséquez l'expression « un amour platonique ».
Oui, les jeunes de la télé-réalité, un jour, avaient dit « un amour platonique, c'est plat et c'est tonique
oh ».
Alors, non.
C'est vrai, vous l'avez inventé ça.
Ah non, je ne l'ai pas inventé.
Vous l'avez
jamais entendu.
C'est contradictoire en plus.
Oui, c'est vraiment. Ils ne sont pas à ça près.
Donc, d'où ça vient ces expressions ? Je vous raconterai ça à la fin de l'émission.
Et tout de suite, plongeons dans la vie d'un astronome qui croyait aux esprits. Il en avait même les preuves. Stéphane Bern nous raconte Camille Flammarion.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
L'observatoire de Camille Flammarion se trouve à Juvisy-sur-Orge, en Île-de-France. Dans les combles de la maison jouxtant l'observatoire sont empilés des livres étonnants. Philosophie du mysticisme, grande encyclopédie illustrée des sciences occultes, mêlée à des ouvrages plus sérieux comme le compte-rendu de l'Académie des sciences. Il y a aussi une carte de la planète Mars, d'innombrables objets d'observations astronomiques et quelques photos. Sur l'une d'elles, un médium fait léviter très haut une table entouré de plusieurs hommes. Ce mélange hétéroclite d'objets est à l'image de leur propriétaire, Camille Flammarion, à la fois homme de science et amateur de spiritisme. Camille Flammarion est né en 1842 dans une famille qui connaît rapidement des revers de fortune. À 14 ans, il doit travailler et se retrouve apprenti décorateur. Grâce à des cours du soir, Camille Flammarion termine tout de même ses études. Passionné d'astronomie, il entre comme assistant astronome à l'Observatoire de Paris. Mais la publication de son premier ouvrage, « La pluralité des mondes habités » fait scandale. Camille Flammarion défend la théorie que d'autres planètes puissent être habitées. L'idée avait déjà été évoquée par de célèbres scientifiques comme Galilée ou Descartes, mais le directeur de l'Observatoire, à qui le contenu du livre ne plaît sans doute pas, renvoie Camille Flammarion. Heureusement, le jeune homme a de la ressource. Il devient journaliste scientifique pour diverses publications et fonde sa propre revue d'astronomie. Mais c'est surtout son livre « Astronomie populaire » publié en 1880 qui le rend célèbre. L'ouvrage dépasse les 100 000 exemplaires vendus et Camille Flammarion reçoit un prix de l'Académie française. En tout, il publie une cinquantaine de livres chez des éditeurs célèbres comme Hachette, Hetzel et bien sûr Flammarion. Maison d'édition fondée par son frère Ernest. Le scientifique donne de nombreuses conférences dans toute la France, mais aussi en Belgique et en Italie. Soucieux de faire découvrir l'astronomie à un public le plus large possible, il fonde la Société astronomique de France, ouverte à tous les passionnés. Il est aussi à l'origine de la Fête du Soleil, organisée pendant 10 ans sur la Tour Eiffel pour célébrer le solstice d'été. La première a lieu le mardi 21 juin 1904. Un grand dîner est organisé par Gustave Eiffel et Camille Flammarion s'adresse à l'Assemblée. Puis, un coup de canon retentit, annonçant que le soleil est au solstice. Les 250 invités font l'ascension de la plus haute plateforme de la Tour Eiffel pour admirer Paris de nuit et certains y restent jusqu'au lever du soleil. Camille Flammarion se passionne pour Mars, persuadé que la vie y est possible. Il défend l'idée que les planètes pourraient être peuplées par les âmes des morts. Étonnant de la part d'un scientifique. Mais il faut dire que parallèlement à son goût pour l'astronomie, Camille Flammarion cultive toute sa vie une passion pour l'étude de l'inconnu et notamment le spiritisme. Il fait tourner les tables, fréquente les médiums et après avoir participé à plusieurs séances de spiritisme, écrit un ouvrage en 2 volumes consacré à l'au-delà, les habitants de l'autre monde. Vous vous en doutez, le scientifique ne croit pas que des fantômes en drap blanc, chaînes aux pieds, viennent nous visiter la nuit. En revanche, il envisage sérieusement que des êtres invisibles, pour reprendre ses propres mots, vivent en compagnie des humains sur Terre. En 1865, Camille Flammarion assiste au spectacle Spirit des frères Davenport de passage à Paris. Sur scène se produisent des phénomènes surnaturels. Les supposés médiums arrivent à se libérer des liens très serrés ou subtilisent des objets appartenant au public. Mais on les accuse de supercherie. Le spectacle fait scandale dans la capitale. Les spectateurs déchaînés brisent les accessoires de scène des malheureux Américains. Pour prouver la fausseté de leur phénomène, le célèbre prestidigitateur Harry Houdini reproduit les mêmes effets sur scène, décrivent Bernadette Bensaud-Vincent et Christine Blondel dans leur ouvrage « Des savants face à l'occulte ». Camille Flammarion, quant à lui, est convaincu qu'il n'y a pas de triche. Les faits produits par les frères Davenport sont des faits authentiques dont la réalité est inattaquable. La cause productrice de ces effets n'appartient pas au domaine de la prestidigitation. Cette cause est une force naturelle inconnue, écrit-il. Pour convaincre les incrédules, Camille Flammarion étudie les phénomènes inexpliqués en appliquant des méthodes scientifiques. Dans son observatoire à Juvisy-sur-Orge, il mène des expériences faisant venir une célèbre médium italienne, Eusapia Paladino, pour 10 de séances de spiritisme auxquelles 70 invités participent. Mais Flammarion est déçu. Les séances n'apportent rien de nouveau. Au contraire, il conçoit de la méfiance envers la médium qu'il prend plusieurs fois
en flagrant délit de tricherie. Mais ce n'est pas parce que certains trichent que les vrais voyants n'existent pas, insiste Camille Flammarion, qui est d'ailleurs parfaitement avertie des techniques frauduleuses utilisées par les faux médiums. Coup donné dans la table au moyen du genou, possibilité de cacher des objets dans les vêtements ou d'utiliser un complice. Il y a tant de moyens de tricher,
oui,
Mathieu, vous
oui,
le savez.
Je le sais.
En tant que scientifique, Camille Flammarion fait le tri entre ceux qui relèvent du surnaturel ou de la supercherie. Quitte à se mettre le monde spirit à dos quand il émet des doutes sur les fameuses réunions occultes organisées par Victor Hugo sur l'île de Jersey dans les années 1850. Le célèbre homme de lettres est persuadé que pendant une séance de spiritisme, Galilée aurait partagé avec lui certaines de ses idées. « Impossible », déclare Camille Flammarion, qui démontre que les soi-disant communications de Galilée à Victor Hugo sont en contradiction avec les connaissances scientifiques de Galilée lui-même. Décidément, entre les fraudeurs et les crédules, difficile de se fier aux hommes. Camille Flammarion se tourne donc vers les machines. Dans ses travaux, il utilise la photographie pour faire apparaître des phénomènes qui ne seraient pas visibles à l'œil nu, comme les corps astraux, sortes de taches blanchâtres, silhouettes plus ou moins évanescentes qui apparaissent sur certains clichés de l'époque. Camille Flammarion meurt en 1925, terrassé par une crise cardiaque qui l'empêche de publier un dernier ouvrage sur les fantômes. Suivant son exemple avec la photographie, les chasseurs de fantômes après lui ne cesseront d'utiliser les machines et la technologie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à évoquer Camille Flammarion, ce scientifique qui croyait aux esprits, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Charlier.
Oui Philippe, vous évoquez Camille Flammarion dans votre autopsie des fantômes qui vient de paraître chez Talendier et vous le présentez comme, je vous cite, « un homme à la croyance complète, sans réserve, à l'idée des fantômes, de la médiumnité et de l'existence de l'au-delà ». Il est à la fois la rigueur de l'observable et du démontrable et en même temps une passion pour l'immontrable, l'impalpable. Donc Camille Flammarion est donc la preuve vivante qu'on peut concilier deux domaines a priori inconciliables, la science et le surnaturel.
Pour lui, le surnaturel, c'est de la science. Mmh. C'est ça le concept. Pour lui, il faut rejeter complètement ces spirites, ces médiums qui font une sorte de spectacle dont beaucoup font du mmh. faux. Il dévoie en fait une réalité, dans l'esprit de Camille Flammarion, oui. Il dévoie une réalité qui doit être absolument scientifique, pragmatique, démontrée par la science, avec des lois, et parfois reproductible au maximum, par définition. Donc pour lui, il n'y a pas d'opposition. Il est un scientifique, même quand il parle des morts, et qu'il parle avec les morts.
Et c'est aussi une forme d'humilité par rapport à la science, c'est-à-dire qu'il y a un domaine qui presque lui échappe.
Ben, au début, c'est un phénomène qui échappe à la science, et puis lui veut justement, Camille Flammarion veut conquérir ce domaine par la science. Donc, aucun domaine ne doit échapper à la science, à commencer par l'au-delà, par les extraterrestres, par la pluralité des mondes habités dont vous parliez.
Oui, mais sur quelle base rationnelle serait fondée cette science ?
Alors pour lui, ce qui est rationnel, ce sont ses observations. D'abord les observations astronomiques, ces immenses canaux qu'il voit sur la planète Mars, etc. Pour lui, ce sont des constructions qui ont été faites par, pas forcément des esprits, mais en tout cas des entités, qui peuvent être des extraterrestres ou autre chose. Ensuite, il se fonde sur certaines tables tournantes, sur des écrits pour lesquels lui est persuadé qu'il n'y a pas eu de triche. Et puis, il se fonde également sur des interactions qui ont pu avoir lieu, des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire des objets qui, inanimés, deviennent animés soudainement à l'intérieur des maisons. Voilà, lui va vérifier...
Et ça, il en a été le témoin ou il recueille des...
Il recueille des témoignages et auprès d'observateurs dont il pense qu'il n'a pas pu y avoir de triche, voilà, que ce sont des témoignages dignes de foi. Mais évidemment, il fait beaucoup le tri. Il fait beaucoup le tri. Et ce qui est amusant, c'est que parfois, quand il assiste à des prestidigitations, qui sont soi-disant des phénomènes spirites, il dit « Oui, il y a un fond de vérité, mais c'est gâché par ce spectacle. Mais il y a quand même un petit peu de vrai dedans. » Donc, c'est là qu'on atteint vraiment les limites de ce cher Camille Flammarion, qui finit par être dépassé par sa foi, et qui, à la fin, finit par être de moins en moins scientifique.
Mais, par exemple, je le rappelais là dans mon récit, il classe Victor Hugo et les sciences de spiritisme à Jersey du côté obscur de la force. Qu'est-ce qui, chez Camille Flammarion, le gênait chez Hugo ? Le fait qu'il règle ses comptes avec la politique ou qu'il fasse dire ce qu'il avait envie de dire au personnage avec qui il communiquait ?
Probablement. En tout cas, le fait que ça soit trop littéraire et pas assez scientifique. Oui. Le fait que ça soit aussi au sein d'un cercle familial. Camille Flammarion va édicter pour les séances de spiritisme et de médiumnité en général, quasiment des règles scientifiques que chacun va devoir suivre. Une distance raisonnable, pas de pieds qui se croisent, attacher les pieds, les jambes, tous les membres des médiums pour éviter qu'ils ne fassent des subterfuges, qu'ils ne fassent sortir quelque chose d'un repli de peau, d'un corsage ou d'un caleçon. Et on a beaucoup de tels détails, parfois des spirites qui cachent des objets dans leur bouche au moment et qui les sortent au moment de ces séances, parfois dans des faux replis de peau, des fausses peaux qui sont collées sur la peau et qu'ils décollent pour en retirer des objets ou des morceaux de tissu.
C'est très élaboré quand même, les tricheries.
C'était extrêmement élaboré. Et vous avez cité tout à l'heure, Stéphane, vous avez cité Eusapia Palladino qui a été prise malheureusement parfois de triche. Alors que dit Camille Flammarion dans ces cas-là et d'autres scientifiques? Que Eusapia Palladino est une bonne spirite, mais que parfois elle n'est pas en forme. Alors du coup, c'est à ce moment-là qu'elle triche, mais ça ne doit pas cacher sa part d'authenticité et de véracité. À nouveau, c'est pas scientifique de dire et de croire ça.
Non. Ça ressemblait à quoi ces séances de spiritisme chez Camille Flammarion? Vous avez trouvé chez lui des archives assez incroyables où vous évoquez des tables dansantes et même parlantes.
Oui, alors parlante parce que ce sont les grincements qui sont utilisés parfois. Parfois, il y a des voix qui sortent même des veines du bois. C'est assez rare. Parfois, les tables vont dessiner aussi. On va fixer un crayon sur un des pieds du guéridon ou de la table et les mouvements de la table vont dessiner. Vous avez cité ça tout à l'heure pour Victor Hugo, qui est un dessin effrayant à la Bibliothèque nationale de France. Donc, il faut imaginer quand même qu'on est dans un intérieur bourgeois avec un parquet et plus souvent d'ailleurs une moquette au sol. Et puis parfois la table, elle est mise de guingois. C'est-à-dire qu'il y a des piles de livres qui sont mises d'un côté, donc elle n'est pas droite, justement pour dépister de façon encore plus facile les mouvements éventuels qui feraient chuter la table. Ou alors pour demander à l'esprit, remets la table droite. Donc, quand on voit ces photos, on se dit, bah oui, la table n'est pas droite, mais il y a une triche. Regardez les livres, c'est évident. Non, c'est mal comprendre, en fait, le phénomène.
Mais il y a autre chose. Vous parliez des règles qu'avait édictées Camille Flammarion. En fait, dans son intérieur bourgeois, il y a un médium féminin qui agit comme une espèce de maîtresse de cérémonie.
Oui,
c'est très codifié, très très policé en fait.
C'est très codifié. Il y a une sorte de petite société spirit ou de médium qui organise avec une sorte de hiérarchie. Les femmes sont beaucoup plus sensibles, paraît-il, à ce contact avec les esprits, probablement leur finesse légendaire. Et ce sont elles qui vont servir d'intermédiaire, de sorte de
conducteur. Le médium, elles sont plus
par définition. Le mot même médium, c'est ça. Ce sont elles qui vont capter les ondes et qui vont interférer entre la communauté des vivants et la communauté des morts. Et puis ensuite, il va falloir transcrire, il va falloir noter. Il ne faut pas non plus se cacher une autre chose, c'est qu'on est dans une société bourgeoise à l'époque, même si le spiritisme est aussi pratiqué par la partie la plus basse de l'échelle sociale dans un milieu ouvrier. Le spiritisme ouvrier, notamment dans le nord de la France, il est extrêmement présent. Donc c'est vraiment les deux extrémités. Et dans ce milieu bourgeois, on aime bien se rincer l'œil aussi avec les médiums qui vont se dénuder, qui vont montrer leur poitrine, parfois un peu plus. On va venir...
Parce que l'esprit est là.
Il est excité, l'esprit?
L'esprit, non, c'est pas ça. C'est que l'esprit va se matérialiser. Il va y avoir une matérialisation, un fluide spirit qui va s'écouler tantôt de la bouche, tantôt du nez, tantôt du cou, tantôt du nombril, tantôt des seins. Et les hommes vont être là pour essayer de prouver. Allez-y, venez toucher ce fluide, venez vérifier que ça ne vient pas, etc. etc. Donc, il y a un côté un peu scabreux, pour être totalement honnête, et de rinçage d'œil de la société bourgeoise masculine face à ces médiums qui vont trouver là aussi un petit cercle de liberté. C'est un endroit où elles vont, ça va être elles, ces femmes, qui vont être au centre de l'attention et qui vont capter toute l'énergie possible et c'est pour elles un espace de liberté aussi.
Bon, je rappelle le titre de votre ouvrage « Autopsie des fantômes » qui vient de paraître chez Talendier. Notre spécial spiritisme continue avec vous, Philippe Charlier. Restez bien avec nous.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui étaient férus de spiritisme. Après Victor Hugo et Camille Flammarion, Mathieu, vous nous brossez le portrait à 99% vrai de Jimmy Page, le légendaire guitariste de Led Zeppelin, qui lui aurait carrément passé, disons, un pacte avec le diable.
Oui. Alors là, mes cocos, on va baisser la lumière. Stéphane va s'asperger d'eau bénite. Et je peux vous dire que David va trembler dans son petit caleçon, le slip français. Bien sûr, nous avons déjà été confrontés ici à l'horreur avec un grand H, notamment la fois où Stéphane avait fredonné du Demis Roussos.
Forever and ever, forever and ever.
Mais aujourd'hui, nous nous apprêtons à aller encore plus loin dans l'effroi avec l'histoire de Jimmy Page, l'un des plus grands guitaristes de rock de tous les temps, dont certains disent qu'il aurait passé un pacte avec le diable et que c'est ce pacte qui lui aurait permis d'accéder à la notoriété avec le groupe culte d'une génération et même deux et même trois. Je sais, Stéphane, que vous adorez les Zeppelin. Ah, oui.
Les pieds de porc assaisonnés, les olives, avec beaucoup de crème. Et du poivre aussi.
Oui, mais aussi Led Zeppelin, vous aimez bien.
Sûr.
Pionnier du rock sombre et à qui on a prêté un goût prononcé pour le paranormal. Pourquoi ? Eh bien parce que Jimmy Page avait depuis son enfance une fascination pour Aleister Crowley, un écrivain passionné par l'occulte. Un écrivain qui se livrait à des rites sataniques dans son manoir écossais, ce qui lui valut le joli surnom de « l'homme le plus malsain du monde ». Vous voyez, David, finalement, Castel-Obèse, c'est pas si terrible. Hein. C'est alors qu'il est cloué au lit par la mononucléose que le jeune Jimmy Page, déjà guitariste brillant, découvre les écrits de ce Crowley. Il est fasciné. Crowley a été initié par l'ordre hermétique de l'aube dorée, et non pas de la douche dorée, qui n'a rien à voir, même si les soirées sont sympas aussi, dont il se détachera assez vite pour suivre sa propre voie ésotérique, créer son propre dogme et révolutionner la magie occulte de son époque. Nous sommes alors au tournant du 19e et du 20e siècle. Crowley devient pour ses adeptes Maître Thérion. Remis de sa mononucléose, Jimmy reprend sa guitare et bien vite le chemin des studios. Mais ce qui n'aurait pu être qu'une parenthèse, une lecture de jeunesse, va le hanter, c'est le cas de le dire, toute sa vie. Quitte même à devenir, vous allez voir, une obsession. Car, comme le dit le grand maître de l'occulte français, Belzeberne, une fois qu'on a rencontré le diable...
Il n'existe pas d'antidote.
Ça y est, le caleçon de David n'est plus immaculé. Tout au long de sa carrière, Jimmy Page va collectionner les écrits, mais aussi les objets liés à Crowley. Il va même devenir le propriétaire d'une boutique d'objets occultes qui porte le même nom que la revue de Crowley, The Equinox, une fascination qui le poussera donc à acheter l'ancienne propriété de Crowley dont je vous ai parlé, ce manoir carrément flippant sur les rives du Loch Ness. C'est là que, selon les rumeurs, Jimmy Page et les membres de Led Zeppelin se seraient livrés à des activités sataniques dont ils auraient ensuite subi les cruelles répercussions. Car oui, Stéphane, pour les partisans de la théorie du pacte avec le diable, tous les malheurs que connaîtront le groupe s'expliquent par leur goût un peu trop prononcé pour l'occultisme. Ah oui, Stéphane, je vais les raconter, ces malheurs. Je sais que ça intéresse les gens. Donc, les malheurs sont l'accident de voiture de Robert Plant en 75 qu'il a laissé de longs mois en fauteuil, puis la mort accidentelle de son fils, les addictions qui ont ravagé la vie de Page durant 7 ans, et enfin la mort moche de John Bonham. Oui, Stéphane, je vais vous dire pourquoi les moches, ça meurt. Je sais que ça intéresse les gens, les morts moches. Ça fait des mois qu'ils sont en tournée, et Bonham sombre petit à petit dans un état dépressif dû aux excès en tout genre, dû eux-mêmes à l'éloignement de sa famille. Et bref, après un after au cours duquel il a avalé 40 shots de vodka, il se fait ramener ivre-mort chez Jimmy Page et meurt dans la nuit. Un peu comme ça, effectivement. En tout cas, dans la tête de certaines personnes, c'est la punition divine pour tout ce qui s'est passé à Boleskin House, ce manoir écossais que Jimmy Page a racheté. Très beau produit, dirait Stéphane Plaza. 8 pièces, 600 mètres carrés, un patio, 4 chambres, 10 hectares de jardin paysager et un cimetière astucieusement relié à la maison par un souterrain.
Ah, génial !
C'est ce que dit immédiatement Jimmy, qui l'achète sans négocier le prix ni même jeter un œil au PV d'Alger. Petit fun fact, la maison est construite sur les ruines d'une église qui aurait entièrement brûlé avec toutes ses ouailles à l'intérieur. Qui n'a jamais rêvé de s'offrir en radeau sur Glane ? Bref, c'est ce qu'on appelle en immobilier un coup de cœur. Jimmy espère bien que le manoir est hanté et il ne va pas être déçu. Très vite, en effet, il entend des trucs bizarres, Jimmy. Ou plutôt, il dit entendre des choses bizarres, restons cartésiens, car évidemment, il faut se méfier des gens qui ont un penchant pour l'alcool et qui se retrouvent seuls dans une grande bâtisse flippante. Même Stéphane, au début, dans son abbaye de Tirongardé, a connu un épisode un peu terrifiant. Une voix de femme aussi résonne soudain dans la nuit.
Qui me parle ?
C'est le fantôme de Carole Rousseau, bouh ! Mais en fait, c'était juste Brigitte Macron qui déconnait. Comme quoi, dans une grande maison, la trouille peut n'importe vraiment quoi jouer des tours. Alors, imaginez un manoir sur les rives du Loch Ness où a vécu l'homme le plus malsain du monde. Après quelques séjours, Jimmy Page est formel. La maison est hantée par l'esprit d'un homme qui a fini décapité et dont on peut entendre la tête rouler chaque nuit sur le plancher. Comme vous dites, David, c'est flippant. Et encore, c'est un euphémisme, car certains soirs, Jimmy va même jusqu'à entendre la voix d'outre-tombe d'une femme qui parle en latin. Ça va, Stéphane, pas trop terrorisé ?
Ça m'émeut beaucoup d'entendre Zizi Jeanmaire qui nous a quittés il y a quelques semaines.
On la salue. À partir de là, en tout cas, Jimmy, qui en joue aussi, hein, il faut le dire, devient l'objet des rumeurs les plus folles. On spécule sur les soirées sataniques qu'il donne en l'honneur de Belzébuth dans son glaçant manoir écossais.
je suis Belzébuth. Je suis Saint Pouk, je suis en.
On oublie parfois comme c'est beau Led Zeppelin. Les plus illuminés vont jusqu'à affirmer que le groupe cache des messages pro-Satan dans leurs chansons. Alors en 1982, un célèbre animateur évangéliste Paul Crouch a essayé de convaincre le monde entier que si on écoutait Stairway to Heaven à l'envers, non pas en faisant le poirier mais en inversant la bande, on entendait une ode à Lucifer. Grotesque, hein, il suffit évidemment de faire le test. Donc là, c'est Stairway to Heaven à l'endroit, nous allons dire. Et maintenant, inversons la bande pour voir ce que ça donne.
Moon show.
Oh mon dieu, la vache, plus toute, c'était bien des satanistes, les gars. Oh la vache.
Vous êtes un grand malade.
Oui, j'ai un peu bu. J'ai bu autant que Jimmy Page pour écrire ce portrait.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai, donc le 1%, vous l'avez remarqué, c'est tout ce qui me concerne. Merci
et,
beaucoup.
Et surtout, nous remercions notre invité Philippe Charlet qui
a
été avec nous.
Ah oui, qui était formidable. Je rappelle, Autopsie des fantômes, c'est chez Talendier, n'est-ce pas?
Tout à fait, Stéphane. Merci beaucoup.
Merci pour vos lumières. Merci à vous tous. Que c'est vous qui avez remporté le quiz aujourd'hui. Humiliant, oui. Une fois de plus, Stéphane.
Oui.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos inquiétants personnages du jour.
Oui, c'est peut-être mieux comme ça, Stéphane. Je commençais à me poser de vraies questions sur la vie après la mort. Il est temps de retrouver des figures plus familières et bien vivantes en la personne d'Olivier Pouls pour l'histoire d'une recette aujourd'hui, Olivier.
Et je vais vous parler de la crème brûlée. On casse le... C'est
les... Quel rapport avec le thème du jour, la mort?
Aucun.
Aucun.
Non,
vous l'assumez pleinement.
On ne fait pas tourner les crèmes brûlées.
On ne fait pas tourner les crèmes brûlées. En revanche, il y a un lien avec notre thème du jour dans la chronique de David Castello-Lopez.
Oui, c'est un objet qui permet de parler et qui est décédé.
C'est l'inverse.
Voilà, c'est l'inverse. Et c'est de la cabine téléphonique. Il y a quelques temps, je vous ai parlé de l'invention du téléphone portable et à cette occasion, je vous avais décrit cette sensation oubliée depuis de ce que c'était que de rater l'appel de votre petite amie sur un téléphone fixe et de devoir attendre que la petite amie rappelle quelquefois 24 heures plus tard. Eh bien là, c'est un petit peu l'épisode 2. C'est le folklore de la cabine téléphonique pour les gens amoureux à distance dans les années 90. En juillet 1998, je suis parti 3 semaines en Norvège et ma mère, elle avait eu la mauvaise idée de me donner un code spécial qui permettait de passer des appels depuis n'importe quelle cabine.
En PCV.
Exactement. Et que l'appel soit débité directement sur son compte en banque à elle. Et il se passait la chose suivante. Je scrutais en permanence les coins de rue et les stations de service pour trouver des cabines pour appeler ma petite amie. J'en trouvais généralement une et puis j'appelais ma petite amie pendant 45 minutes tous les jours. Je m'engueulais avec elle parce que j'étais chiant et qu'elle manquait de générosité. Et ensuite, j'étais triste. Alors j'appelais mon meilleur ami de l'époque pour qu'il me console pendant 45 minutes aussi. Tout ça à 2 francs la minute. Résultat, quand je suis rentré à Paris, ma mère avait reçu une facture de 4500 francs de téléphone. Ça fait 900 euros d'aujourd'hui quand même. Et j'ai été convoqué par mes parents qui m'ont dit « Tu vas raquer, en fait. Tu vas raquer. » Et j'ai dû payer, mais que le tiers quand même. Ils ont été gentils. Mais il reste que j'ai gardé pour les cabines téléphonique, une tendresse que j'ai eu envie de convertir en chronique pour Europe 1, et j'ai donc cherché pour vous les origines des cabines téléphoniques. Alors, le premier coup de téléphone du monde, il date de 1876, mais pendant un bon moment, le téléphone, c'était que pour les riches, surtout parce que vous étiez souvent obligé de payer un abonnement mensuel. Vous ne pouvez pas juste passer un coup de téléphone comme ça. Et puis, en 1888, il y a un inventeur américain qui s'appelait William Gray, qui était à Hartford, dans le Connecticut. Sa femme était malade et il a voulu appeler un médecin, sauf que il n'avait pas de téléphone et il s'est dit « Ce serait quand même cool s'il pouvait y avoir des endroits où on puisse téléphoner dans les lieux publics. » Alors, ça existait un petit peu, ces endroits-là, déjà, mais c'était des endroits avec un employé auquel vous donniez de l'argent et qui vous laissait téléphoner, un peu comme dans les taxiphones aujourd'hui. Et si l'employé était pas là, c'était mort. Mais ce que William Gray il a fait, c'est qu'il a inventé un téléphone public dans lequel on mettait des pièces. Et le truc rigolo, c'est que c'était un système qui reposait sur la confiance. Parce que les gens payaient non pas avant, mais après avoir passé le coup de téléphone. Et selon un système assez étonnant d'ailleurs, à l'époque, quand vous passiez un coup de téléphone, il fallait parler à un opérateur. Et là, à la fin de la conversation, cet opérateur qui vous entendait vous disait combien il fallait que vous payiez. Et vous glissiez des pièces dans une fente dans la machine. Ces pièces, elles tombaient sur une cloche à l'intérieur de la machine. Et donc, ça faisait un bruit qui permettait à l'opérateur de savoir à distance en écoutant si vous aviez payé et aussi
vous n'avez pas
combien.
Connu cette époque, Stéphane, quand même, rassurez-nous.
Oui, c'est 1889.
Ah oui, d'accord. On est vraiment dans les balbutiements.
Exactement. Au tournant du siècle, il y a eu des nouvelles machines dans lesquelles on payait à l'avance. Mais petit truc chiant, votre argent était perdu si la personne en face répondait pas. Voilà, un petit peu emmerdant. Et c'est qu'en 1909 que la cabine telle qu'on l'a connue est née, c'est-à-dire une cabine qui vous redonne votre argent si l'appel ne passe pas. Alors ensuite, la grosse innovation à partir de là, elle est venue
70 ans plus tard. C'est les cartes de téléphone à puce prépayées que certaines personnes collectionnaient. Ça, ça a permis de réduire le problème du vandalisme dans les cabines, puisqu'il n'y avait plus de pièces dedans. Pièces, vous vous souvenez des deux types de cartes qu'il y avait? C'était quoi?
Il y avait selon les tarifs.
Oui, selon c'était selon le nombre d'unités qu'il y avait à l'intérieur.
Exactement. 30 ou 40.
C'était 50 et 120. 120. 50 unités et 120 unités. Vous avez oublié tout
J'ai oublié. Pourtant, je les ai collectionnées.
Mais oui, voilà. Et puis, à partir.
Mais c'était des supports publicitaires.
Exactement. Et à partir de la fin des années 90, c'est la lente agonie de la cabine. Des cabines téléphoniques, il y en avait 250 000 en France en 97. Il n'y en avait plus que 46 000 en 2015. Et vous savez qui c'est qui leur a donné le coup de grâce? C'est Emmanuel Macron. Votre ami Stéphane,
appelez-le tout de suite.
Puisque la loi Macron de 2015, c'est elle qui a supprimé le service universel d'Orange, qui obligeait Orange à maintenir des cabines téléphoniques en France pour garantir un accès au téléphone sur tout le territoire. Et là, dégringolade totale. À Paris, la dernière cabine, elle a été démontée en juin 2017. Elle était rue Ordener. Tout le monde s'en est foutu complètement, même pas un truc dans les journaux. Et aux dernières nouvelles, qui commencent à dater un petit peu, il restait plus qu'une centaine de cabines en état de marche en France,
mais
qui,
quand même,
en tout et pour tout, ne sont utilisées que quelques secondes par mois. Et si je suis honnête, je sais même pas comment on fait pour les utiliser. Parce qu'on peut plus acheter de cartes de téléphone.
Comment on fait alors?
Alors, peut-être que les gens, ils font comme moi, j'ai fait en Norvège en 98. C'est-à-dire, ils utilisent le numéro spécial de leur maman. Je ne sais pas.
Oh, le numéro spécial de votre maman. C'était une chronique informative et très émouvante aujourd'hui, qui nous a renvoyé. Il y a un peu de nostalgie dans le studio, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
Mais c'est le seul type que je connaisse qui part visiter la Norvège et qui passe une heure et demie au téléphone tous les jours.
Ça s'appelle l'amour, Stéphane.
Vous auriez pu la prendre avec vous, c'était moins cher.
J'aurais bien aimé, mais je pense qu'il n'en était pas question.
Et surtout d'aller visiter la Norvège en juillet 98 alors qu'on gagnait la Coupe du Monde. Oui, je n'ai pas vécu la finale de la Coupe du Monde en France.
Je l'ai vécu dans les îles Lofoten, que j'ai vu dans un petit bar où on était 10.
Vous étiez tout seul à sauter.
Et tout seul comme ça, voilà. Alors qu'il s'était tard le soir, mais il fait jour tard le soir en Norvège.
Ah, ça, c'est assez magique.
C'est beau. Norvège.
C'est très beau. David, on retrouve évidemment toutes vos chroniques sur le site europe1.fr en podcast. Et Olivier Pouls arrive, il se prépare, il nous prépare une petite crème brûlée aujourd'hui.
On a juste le temps de mettre le sucre et de vous le caraméliser là.
Parfait.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Olivier Pouls est avec nous, prêt à nous dévoiler l'historique d'une recette qu'on aime follement. La crème brûlée.
Là, il y a unanimité quand même. Rassurez-moi.
On adore ça. Ouais, on adore ça. Mais j'ai jamais compris la différence avec la crème catalane.
Ah, mais je vais vous le dire. Parce que justement, il y a un grand débat. Les Espagnols,
qui traversent le monde.
Dans votre monde, il y a vraiment des débats.
Ah oui, les Espagnols prétendent qu'ils ont inventé avec la crème catalane la crème brûlée. Et c'est vrai que les premiers écrits remontent à 1324, dans ce qui est l'un des tout premier livre de cuisine au monde. Il s'appelle le Libre de Sensovi, qui est un livre de recettes médiévales et dans lequel on trouve la recette de la crème catalane.
Mais c'est quoi le titre du livre?
Ah, Libre de Sensovi.
Oui, en français, c'est quoi?
Ah, ben, c'est le nom espagnol, il n'a pas été traduit. On en trouve d'ailleurs.
Mais c'est du haut espagnol je sais pas. Ça a l'air le livre des sens, j'imagine, non?
Bah, oui, écoutez, moi, j'aurais pensé livre des sens.
En tout cas, on peut encore en trouver, on en trouve des éditions d'époque à 1500 euros si vous voulez me faire un petit cadeau.
Dis donc, c'est évidemment 1500 euros est une somme énorme, mais pour un livre datant de cette époque-là, qui serait le premier livre de cuisine, je trouve pas que ça soit.
Un des tout premiers livres de cuisine.
Pour mon anniversaire, j'aimerais bien ça.
On trouve la recette de la crème catalane qui est extrêmement proche de celle de la crème brûlée. Mais il manque un truc. Et c'est pour ça qu'il y a une différence. Ben, il n'y a pas le côté brûlé au-dessus. C'est juste de la crème, mais il n'y a pas le petit sucre qui a été caramélisé au-dessus de la crème. Et ça, mais figurez-vous que ça arrive au XVIIe siècle. C'est François Massialo, qui est l'officier de bouche du duc d'Orléans, grand cuisinier, lui aussi, qui a rédigé un livre qui s'appelle Le cuisinier royal et bourgeois. Là, vous comprenez ce que ça veut dire. Pas besoin de traduction.
Voilà. Le cuisinier royal.
En 1692. Et en fait, il raconte que il avait fait des crèmes catalanes et que on les trouvait un peu froides. Il a voulu les réchauffer et il a passé un fer par-dessus, un fer très chaud, ce qui a fait caraméliser la petite croûte, le petit sucre qu'il y avait par-dessus. Et donc, la différence essentielle entre la crème catalane et la crème brûlée, ben, c'est qu'au-dessus de la crème brûlée, il y a ce petit caramélisé de sucre. Sinon, il y a une petite différence aussi, c'est que la crème catalane, elle contient normalement du lait et un peu de fécule, ce qui n'est pas le cas de la crème brûlée qui ne contient que de la crème.
Mais c'est quand même un travail d'équipe avec les Espagnols, on peut le dire.
Ça.
C'est une co-création.
Co-production, hispano-française. Et je vais vous en donner la recette parce qu'en réalité, c'est un dessert qui est extrêmement facile à faire. Il y en a vraiment pour 2 minutes. Pour 4 personnes, ça tombe bien, on est 4 dans ce studio, 4 jaunes d'œufs, 50 g de sucre, 40 centilitres de crème liquide, une gousse de vanille et puis de la cassonade pour faire le
ah oui, c'est le sucre.
Ouais, le sucre, vous savez, la cassonade, c'est le sucre non raffiné. C'est meilleur. Et donc, vous allez mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Vous allez faire infuser la vanille dans la crème liquide que vous chauffez un petit peu. On mélange tout ça. On coule dans des petits ramequins. On cuit très lentement dans un four à moyenne température, autour de 100-120 degrés.
Ah oui,
il faut pas qu'il y ait d'ébullition, il faut vraiment que la crème prenne tout doucement. Donc la cuisson va durer à peu près 50 minutes. Après, on rajoute la cassonade par-dessus, et puis avec un petit chalumeau.
Petit chalumeau, mais où est-ce que vous trouvez un chalumeau?
Ça se trouve dans tous les magasins de cuisine. Alors si vous n'en avez pas, vous passez sous le grill du four pendant une minute trente. Et dès que vous voyez que le sucre commence à caraméliser, c'est prêt, vous pouvez y aller.
J'ai tellement faim.
C'est la seule nourriture qui se vante d'être brûlée, la crème brûlée.
En réalité, elle est caramélisée, brûlée, on va pas jusque-là, quoi.
Non. Passionnant.
Après, une bonne crème brûlée, Stéphane.
Oui.
Un amour platonique.
Oui.
Ça serait idéal. Mais d'où vient cette expression étrange, amour platonique? Parce que moi, j'ai lu Le Banquet de Platon. C'était pas très platonique, justement. Nous allons le savoir.
Blague de philo.
Blague de philo, ça m'arrive parfois. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Que ferions-nous sans Stéphane Bern pour nous guider dans la langue française?
Non, vous débrouilleriez très bien.
On appellerait Bernard Pivot, mais on
Maître
vous a...
Capello peut-être aussi.
Maître Capello, lui, il faudrait...
Il est moins facile à joindre. Là.
Moins facile à joindre, sauf...
Ça se dit sur une spéciale spiritiste, ça
oui,
peut
c'est
marcher.
Possible. On peut éventuellement contacter Maître Capello. Stéphane, aujourd'hui, l'expression que vous nous décortiquez est l'expression amour platonique.
Oui, quand entre deux personnes, quelle que soit la raison, l'amour n'est pas consommé charnellement, une expression s'impose, on dit que c'est un amour platonique. Mais pourquoi platonique? Alors vous avez donné un peu...
Je pense pas me tromper, mais logiquement, qui dit platonique dit Platon, le grand philosophe grec.
Oui, je m'incline vraiment, Mathieu, devant votre sens de déduction. C'est votre deuxième prénom, c'est Sherlock.
Oui, ça doit être ça. Oui, enchaînez.
Oui, Mathieu, il s'agit bien de Platon, mais attention, ce n'est pas ce dernier qui a théorisé cet amour dénué d'accomplissement charnel. Il l'a encore moins encouragé, d'ailleurs.
Voilà.
En fait, c'est dans Le Banquet, écrit en 380 avant Jésus-Christ, que Platon met en scène une discussion entre lui et des convives. Pour la faire courte, Platon trouve qu'un amour charnel est plutôt naturel, qu'il est même nécessaire pour trouver la vérité, alors qu'autour du banquet, on développe des arguments contraires. Mais c'est au XVIe siècle qu'un autre philosophe, Marcil Ficin, approfondit ce qu'il désignera comme l'amor platonicus, un amour chaste, poétique, bien loin de l'instinct animal qui nous pousserait forcément à la perpétuation de l'espèce ou à la recherche du plaisir. Vous l'avez compris, le concept devient d'ici christianisé, cet amour devient une expression de Dieu, l'alliance chaste de deux âmes divines. Alors, terminons par un peu de légèreté avec un bon mot de Pierre Dac. L'amour platonique est à l'amour charnel ce que l'armée de réserve est à l'armée d'active. Heureusement qu'on n'a pas inventé l'humour platonique, parce que là, ça serait vraiment triste.
Les amis, l'heure est grave. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre s'achève. Stéphane, aujourd'hui, nous aurons combattu les fantômes. Oui, vraiment, vous êtes bien battu, Stéphane. Au fait, lequel de nos personnages fans de spiritisme nous a le plus étonné? Victor Hugo, Camille Flammarion ou Jimmy Page, le leader de
Jimmy
Led Zeppelin?
Page, oui, j'aime beaucoup Led Zeppelin.
Je sens que vous avez envie d'acquérir ce manoir en Écosse sur les rives du Loch Ness.
Non,
vous allez visiter.
Je ne passe pas mon temps à acheter des je vous laisse ce plaisir d'acheter des maisons.
C'est vrai qu'il y a des mois où vous n'achetez pas de demeure.
Tu me cherches.
Non mais franchement, j'ai envie de visiter cet endroit.
Pourquoi on ne fait pas des week-ends?
L'idée est lancée à la direction d'Europe 1. Délocalisation dans des endroits historiques. Et pourquoi pas le manoir de Jimmy Page. Et terminons sur un exercice pratique. Esprit, peux-tu nous dire le programme de demain?
Je peux, Mathieu.
Allez.
Mais demain, après les esprits, les simples d'esprit.
Ah bon?
Reviens, ils sont devenus fous. Et oui, c'est le thème de l'émission de demain. On réunit trois personnages qui se sont laissés gagner par la folie au cours de leur vie. Le roi Charles VI, qu'on appelait le fol ou le fou. L'artiste peintre Séraphine de Senlis.
Et Chia Labeuf, un comédien qui a mal tourné et qui tourne plus vraiment d'ailleurs. Alors,
à demain, Stéphane.
À demain, Mathieu. Reposez-vous un peu, parce que je crois que ça vous a perturbé cette émission.
Un peu, ouais.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.